Bonsoir et bienvenue dans Rien à voir quoique sur le 94 FM à Toulouse ou en streaming où vous voulez, si vous voulez, partout dans le monde. Ce soir, nous vous proposons une émission spéciale en plateau et en public dans un lieu hors norme, l'Hôtel Dieu Saint-Jacques, pour un festival tout aussi hors norme, le Wild Festival, qui vient juste de commencer pour se terminer lundi de Pâques le 22 avril et qui vous propose un voyage musical, artistique, pluridisciplinaire, immersif, atypique et collaboratif. Une merveilleuse équipe est à mes côtés tout au long de l'émission. Lisa de l'émission Du pain sur la tranche, Hugo Dagneau, Jean Docarmo et Marie-Lys Casier, ainsi que François Berchenko à la réalisation technique de l'émission. Un grand merci. On est ensemble dans Rien à voir quoique, émission spéciale, le Wild Festival. Au programme du Wild Festival, ce sont trois soirées à l'Hôtel Dieu Saint-Jacques où nous sommes, samedi et dimanche de 21h aux premières lueurs du jour jusqu'à 5h du matin. Une déclinaison dans trois salles de ce lieu chargé d'histoire avec des expositions, de la danse, des ateliers de découverte, un espace chill out et un traiteur avec des produits issus d'une agriculture équitable et locale et bien sûr des concerts, beaucoup de concerts. NTDT est notre premier invité ce soir. Et Hugo, c'est à toi, je te laisse la parole.
Eh bien oui, justement, bonsoir Anna. On commence justement l'émission avec l'artiste qui justement aussi lance les hostilités du festival, parce que c'est lui qui démarrait donc hier soir à l'Hôtel Dieu. C'est à ce moment-là donc on l'a rencontré juste avant son set. Et sinon, vous pouvez l'écouter aussi aujourd'hui, donc toute la journée jusqu'à 15h au port de l'embouchure. Donc on est en plein dans l'actu, mais en même temps, il est avec vous sur Campus FM. Donc bonsoir NTDT, bonjour.
Bonsoir.
Alors NTDT, c'est Nayor The Discus Thrower.
C'est ça.
Alors Nayor, c'est ton prénom, le lanceur de disques, c'est ça?
Exactement.
Alors tu viens de Marseille?
Exactement.
Alors et tu as signé sur le label Wild Records, donc le label toulousain Wild Records. Alors la première question, c'est comment tu as été amené à rencontrer une équipe toulousaine pour ta prod?
Alors en fait, j'ai connu cette équipe Wild Records à l'époque où ils avaient créé leur premier label qui s'appelait Teen Masters. J'avais un pote en commun, en fait, un ami qui s'appelle Clément, qu'on s'est connu en études, en fait, sur Marseille. Et il m'a présenté, en fait, à son groupe de potes qui créait ce label-là, Chill Masters. Et du fil en aiguille, le courant est bien passé, ils aimaient bien le son que je faisais. Du coup, on s'est lancé dans cette aventure-là. Et bon, ben voilà, ça fait qu'aujourd'hui, je suis là pour le Festival Wild.
Alors le son que tu fais, c'est depuis à peu près 2012 hein, qu'on peut suivre ton parcours,
c'est
sur
ça.
Internet notamment.
Voilà.
Alors au début, c'est des mix vraiment soul, électro, funk,
c'est
et ça.
Ça
évolue vite vers de la house. Vraiment, aujourd'hui, on est sur de la house,
ouais,
très disco.
Avec ces influences-là, toujours funk, voilà, soul.
Voilà, très marqué bah, ouais. Justement par les origines de soulful de la house. Un côté très French Touch aussi.
C'est ça.
Et alors justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution de tes premiers DJ sets à tes productions? Parce que maintenant, tu produis ta musique.
Alors, j'ai commencé d'abord par produire avant de me mettre à mixer. La production, c'est vraiment une passion que j'ai connue quand j'étais au collège à peu près. J'ai commencé par faire à l'époque, j'étais fan de rap, donc j'ai commencé par faire mes productions de rap. Je rappais aussi, donc j'ai fait 2-3 morceaux qui sont restés dans les placards aujourd'hui, qui sont introuvables. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai vu 2-3 lives, j'ai eu vraiment le déclic en allant voir les Daft Punk à Bercy. Et à partir de là, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire, je me mettre à l'électro. Et j'ai fait quand même pas mal de titres avant que ce soit vraiment, entre guillemets, professionnel. Et après voilà, ça a évolué comme ça, j'ai commencé un petit peu à mêler un peu toutes les influences que j'ai via les musiques que j'écoute, les vieux morceaux, machin. Et
alors c'est drôle parce que tu parles de t'es passé du hip-hop à la house, alors c'est un chemin assez classique pour beaucoup de musiciens finalement, et y a, en ce moment sur Arte il y a un documentaire sur le hip-hop et justement c'est un compatriote à toi de Marseille,
ouais.
C'est Akhenaton,
ouais.
Qui dit dans les années 90 en parlant du rap, si on veut pas écouter de la variété ou de la house, voilà, il faut faire du rap, comme si c'était complètement séparé ces deux
alors,
musiques. Toi est-ce que justement tu peux nous nous parler un petit peu du lien que tu fais entre ces musiques.
Moi, je trouve pas que ce soit forcément séparé, parce qu'en fait, le rap que j'aime, en tout cas le rap des années 90, est basé sur des productions qui sont samplées de morceaux des années 70. Et du coup, dans la house, enfin dans les gros morceaux house, enfin les morceaux les plus connus de house music, c'est à peu près les mêmes morceaux en fait de la même époque qui sont samplés, donc on retrouve cette même touche, ce même groove, et c'est ça en fait qui a fait que je suis passé de la house, enfin du rap à de la house.
C'est la racine funk, exactement.
Quoi. C'est les mêmes influences.
Et la French Touch justement a cette particularité, c'est le style de house à la française, on va dire, qui justement initié par Daft Punk, qui redonne vachement ce côté funk à la house.
Voilà.
Toi, t'es vraiment dans cette tradition, et justement ça, j'avais envie, on a beaucoup écouté ce que tes morceaux, t'as sorti un EP qui s'appelle Chain of Fools, donc sur le label Wild Records.
Ouais.
Et justement, je voulais savoir comment tu travailles, parce qu'aujourd'hui justement le sample est un peu délaissé par le rap avec l'arrivée de la trap ou des influences plus électro.
Ouais.
Est-ce que toi, ta musique, c'est du sample?
Ah, c'est complètement du sample et c'est complètement assumé. C'est-à-dire que je pars en fait de j'écoute un maximum de morceaux, donc principalement des très vieux morceaux, de cette époque-là, des années 70-80. Et donc j'essaie de trouver un petit peu des samples, des passages qui sont intéressants, que je vais prendre, exploiter, faire tout un travail dessus, et ensuite voir si j'ai des potes musiciens du label qui peuvent me rajouter derrière des solos de guitare, des solos de piano. Voilà. Donc je travaille beaucoup avec Lester, par exemple, qui est sur le label également, et qui est un des meilleurs guitaristes que je connaisse, et qui me fait à chaque fois, dès que j'ai besoin, des solos de guitare exceptionnels.
Alors ouais, justement, la guitare très présente sur ton dernier EP, très propre. On se demandait si c'était un logiciel de post-prod, ou est-ce que c'est vraiment un guitariste.
Je fais appel à des artistes pour enrichir le morceau. En fait.
Et saxophone aussi.
Saxophone, j'essaie des fois de trouver des samples, des fois de trouver des passages d'impro sur des morceaux de jazz, par exemple, qui colle, que je retravaille, je prends des petits bouts, j'essaie de recréer un solo avec ma touche en fait.
Et pour le chant, alors comme tu donnes un peu ce côté très, très soulful, il y a toujours beaucoup de voix soul sur tes morceaux, ça c'est du sample aussi?
Ouais, les voix en règle générale, je les trouve un petit peu pareil, je fouille sur internet, j'arrive à trouver un peu des acapellas qui sont pas trop exploités. Et en fait j'essaie de faire en sorte que le morceau que je sorte soit un morceau à part entière, que les gens écoutent ça et se disent, enfin, voient ça comme un morceau et non pas comme un remix.
Alors après, avec le travail que tu as, alors ça pour ta musique, tu travailles seul, après avec le label, est-ce que tu travailles, parce que le label Wild Records travaille beaucoup sur l'image qui donne aux artistes, sur le côté vidéo, sur le côté un peu... on va dire, cohérence artistique, tout ce qui est l'image, c'est eux qui travaillent avec toi, cette image?
Alors moi je travaille aussi dans l'image, dans la vidéo, je fais un petit peu de vidéo aussi à côté, donc j'essaie, dès que je fais un peu des lives, de récupérer les images et de me faire un petit peu des mini-vidéos, des résumés un peu des soirées que je fais, et comme je suis un peu sur la vidéo aussi, donc du coup j'essaie de m'en occuper, quoi.
Vous faites un peu tout le travail tous ensemble?
Voilà.
Et tu viens sur Toulouse pour travailler ou t'es...
Non, je travaille chez moi. Je travaille de chez moi sur Marseille. Et par contre, c'est toujours un plaisir de venir à Toulouse.
Et la scène de musique électronique à Marseille, c'est actif,
Ouais, c'est bien actif. Ça commence un petit peu là à bien prendre. Il y a une bonne visibilité. Je trouve que ça prend. Il y a de plus en plus de soirées qui se font dans des lieux, dans des super lieux très jolis. Et c'était pas très bien exploité il y a 5-10 ans de ça. Il y avait pas énormément de soirées, c'était toujours dans les mêmes spots. Et là, ça commence un petit peu à exploiter les lieux qui étaient jusqu'à présent inexploités, quoi.
Bah, comme ici, par exemple, ce week-end à Toulouse,
voilà.
À l'Hôtel Dieu, dans le cadre
du
Wild.
Bon, à Marseille, on n'a pas encore de soirées dans des lieux comme ça.
Non.
Ça, c'est vraiment exceptionnel, cette soirée-là.
Ouais. Alors, des dates à venir cet été pour les gens qui seront sur la route des festivals?
Alors, pas de date de prévu. En général, moi, quand j'ai des dates, c'est pas du jour au lendemain, mais ça se fait vraiment dans la précipitation. Donc il faut rester un petit peu à l'actu sur Facebook ou Instagram. Je communique là-dessus, mais bon, voilà.
Alors c'est Nayer the Discus Thrower, NTDT, NTDT. Alors c'est facile hein, à chercher.
NTDT.
SoundCloud, Spotify, Facebook, YouTube. Vous trouverez tout ce que vous avez besoin pour suivre NTDT. Donc qu'on va écouter tout de suite. D'ailleurs, tu peux peut-être lancer le morceau, le premier morceau de l'émission. C'est un morceau qui est issu donc de ton dernier EP. C'est Oh I Want You. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce morceau?
Alors, c'est je suis pas très fort pour me vendre, mais qu'est-ce que je peux dire dessus? C'est un morceau.
Il marche très très bien. On va dire.
Ouais. Ouais. Je sais pas.
Moi c'est un des préférés personnellement.
Bon, c'est un morceau qui bouge bien, qui vous
c'est
met le smile.
C'est pour ça.
Mais
c'est,
comme toute ta musique quand même. Voilà. Hein, ta musique, oui. Ça donne envie de filer.
Ouais, mais c'est
décapotable.
Il y a quelques morceaux, c'est quand même majoritairement mélancolique. Là, c'est. Ça colle à l'été, c'est si vous êtes sur la plage en train de boire des verres, c'est voilà. Idéal.
Peut-être le son de l'été.
Merci Hugo, merci NTD.
Merci à vous.
On écoute How I Want You. Et le groupe Yuma Gouba nous a rejoints, ils sont quatre pour toi Lisa.
Quatre rien qu'à moi et tout au long de la soirée dans le Wild Festival, il y a Guillaume, salut Guillaume.
Bonsoir.
Il y a Lucas, salut Lucas.
Bonsoir.
Il y a Jean qui est juste à côté de Lucas.
Bonsoir.
Salut Jean et enfin il y a Geoffroy. Salut Geoffroy. Alors dans les Yuma Guma, c'est un trio de musique électronique. Alors vous au départ vous êtes parisien et vous n'êtes pas du tout dans l'axe électro au départ. Vous provenez surtout d'une formation musicale assez rock, Lucas.
Ouais, tout à fait. On a commencé quand on avait 16-17 ans à faire de la guitare, de la basse et un peu de batterie. Et ouais, on a découvert la musique comme ça, et puis après on a été amené petit à petit vers la musique électronique, qui est une musique en fait qui nous a toujours un peu entouré, mais qu'on n'avait pas forcément l'opportunité de, vraiment essayer. Et c'est en vieillissant que tu découvres des instruments, tu commences à découvrir, en fait, parce que la musique électronique est très rattachée à l'instrument, et c'est un truc qu'il faut que tu travailles en amont, et donc il faut passer un peu de temps. Avant d'attaquer la musique électronique.
Ça veut dire Geoffrey que...
Geoffroy, je rappelle aux auditeurs.
Que vous jouez ensemble depuis vos 17 ans, tous les trois.
Ouais, depuis un peu plus longtemps, 14-15 ans, on a commencé vraiment à se mettre dans le rock. Et après, on est potes de longue date et ça fait 2 ans après qu'on fait ce projet, justement de jouer de la musique électronique ensemble avec nos vieux instrus de l'époque, quoi.
Et Guillaume, le groupe, il a que 2 ans et pourtant vous avez déjà sorti 8 vidéos sur votre chaîne YouTube.
Bah ça, c'est l'avantage de jouer aussi dans des cadres assez spéciaux où on nous propose aussi beaucoup de captations vidéo, captations audio, et donc ça nous donne beaucoup de contenu qui nous permettent après aussi de communiquer là-dessus. Et voilà quoi, c'est le monde de la nuit.
Jean, tu veux 2 ans, 2 EP? Est-ce que tu peux parler des EP? Il y a un premier EP qui a une couleur assez particulière et un deuxième là qui va pas tarder à sortir, qui est plus French Touch.
Ouais, en fait c'est ça. Le premier EP c'était un peu un étalage de ce qui était un peu capable de faire Yuma Guma, avec des sons un peu justement un peu chauds, un peu avec des sonorités qui vont jusqu'à des trucs assez même brésiliens, voire bossa nova. Et le deuxième EP c'est plus une forme de transition avec la période qui, eux, les a le plus marqués, les a aussi un peu permis de basculer dans ce côté un peu électronique. C'est, voilà, c'est un peu... Il y a des sonorités French Touch, mais il y a toujours un peu l'ADN entre le live d'un groupe de rock et le côté producteur un peu du fond des studios et tout. Et c'est... Voilà, c'est... Pour moi, je trouve que ça correspond très bien à leur texture, à l'image que leur musique renvoie, le prochain EP.
Lucas, sachant que tous les trois, ça fait 3 ans maintenant, ça fait depuis que vous avez 14 ans que vous jouez ensemble, est-ce qu'il y a des incontournables dans vos classiques que vous réutilisez pour vos compositions?
Ouais, je pense très largement. Enfin, on apprend la musique quand on fait du rock en écoutant donc nos idoles, et puis avec YouTube on peut très facilement apprendre en fait des plans de base qui en fait sont très facilement distillables dans plein de sortes de musique. Et donc je pense à Jimi Hendrix, mais je pense à plein de trucs de funk, et c'est quelque chose en fait on se rend compte que on retourne toujours aux incontournables, à l'essentiel. Et puis même quand on pose au Daft Punk, en fait, la plupart de leurs titres, leurs mélodies sont des trucs qui sont déjà existantes dans la musique classique. Donc je pense qu'on est obligé de retourner
aux sources.
Aux sources, mais c'est quelque chose d'évident. Ouais.
Et est-ce que les sources, Joe, ne seraient pas le rock des années 70, parce qu'il y a des sonorités dans quelques-uns de vos morceaux qui font penser à cet imaginaire musical-là?
Si, bien sûr, mais après, on a tous nos influences différentes. Bugno, c'est plutôt rock garage, ce délire. Lucas a assez tiré sur aussi le rock psyché, Black Sabbath, French Touch, choses comme ça. Et moi, plus tiré sur la techno et la musique électronique. Et après, ça fait un mélange de tout ça, justement, en studio. Et on se marre bien, quoi, à créer des trucs. Enfin, on est plutôt des créatifs, on aime bien créer. Et c'est toujours difficile de mettre ça à plat pour sortir des sons. Parce que t'as une palette de sons tellement immense au bout d'un moment, à force de travailler, que tu sais pas forcément comment bien les ranger pour présenter ce que t'as fait. Et là, je pense que dans le deuxième EP, on est bien arrivé à ça.
Guillaume, 2 ans, 2 EP et un Mexico tour.
Ah, c'était une sacrée expérience. C'était un peu sortir du confort de Paris. Parce qu'à Paris, on a des contacts. Enfin voilà, on s'est fait tout un
réseau. Des facilités avec les salles,
voilà, exactement.
Etc.
Même avec le public, généralement. Mais c'est vrai qu'au Mexique, on arrive avec des gens qu'on connaissait un petit peu aussi.
Comment s'est créé le contact avec les salles mexicaines dans lesquelles vous avez joué?
Ah bah ça a été aussi un peu de réputation et derrière un petit peu de contact aussi qu'on avait forgé à Paris dans des festivals, des rencontres. Et là-bas on s'est retrouvé devant des gens vraiment qu'on connaissait pas, qui nous connaissaient pas, qui ont écouté un tout petit peu ce qu'on faisait. Et il y a vraiment une connexion qui est limite un petit peu.
Il y a surtout pas mal de collectifs qui nous ont accompagnés là-bas, qui nous ont permis de tourner. Voilà, c'est ça. Et on était déjà parti il y a 2 ans avec Lucas au Mexique pour roder un peu les trucs et on a fait quelques dates, on a eu de la chance.
Il faut dire qu'en fait il y a en ce moment le développement d'une scène électronique au Mexique qui est assez extraordinaire.
Mais justement, j'avais posé la question, comment cette musique électronique française là, de la French Touch un peu, elle a été reçue, notamment à Mexico ou dans des endroits un petit peu plus perdus que la capitale.
Non seulement ça a été super bien reçu et on s'est retrouvé face à des gens qui étaient vachement ouverts à ce style de musique. Et au-delà de ça, que ce soit les amis qu'on a là-bas ou même par curiosité, on s'est intéressé un peu à ce qui se faisait là-bas. On connaissait et on a découvert en fait des gens qui faisaient de la musique électronique de très très haut niveau.
S'apparentait à de la musique occidentale ou qui avait vraiment une couleur particulière ?
Qui avait cette couleur un peu particulière, mais qui est quelque chose qui est assez inhérent à pas mal de styles de musique électronique sud-américaine, donc Amérique centrale et Amérique du Sud. Mais au-delà de ça, on parlait de nos amis qui nous ont accueillis royalement là-bas. C'est des collectifs, des labels qui sont organisés, qui n'ont rien à envier à ce qui se fait en France. Et voilà, et en plus de ça, le Mexique, c'est un pays qui est immense, qui est super beau et qui a plein de diversité qui franchement, gagne à se faire découvrir.
Est-ce que le public est très, très différent aussi ?
Pas tellement, c'est des latins, ils aiment boire, fumer des clopes, ouais. Manger, sortir tard, on se retrouve vachement avec des publics comme ça, je pense. Yuma Gouma n'a pas encore eu l'occasion d'aller par exemple dans des pays de l'Est ou des pays germaniques, mais en tout cas les Mexicains, on sait que c'est des gens, il y a ce côté latin avec lequel il y a de quoi être super proche.
C'est pas du tout aseptisé quoi, Mexico c'est encore assez... On va dire
Oui, mais c'est ce que Jo disait, c'est un cadre qui est assez particulier.
La teuf n'est pas pareil. Hein.
Tu disais ?
Il y a pas mal de teufs qui sont organisés dans la nature et du coup, forcément, ça change complètement le contexte quand tu vis en France.
Et puis, c'est pas les mêmes horaires non plus.
Donc, vous avez l'occasion de jouer dans ce genre de contexte ?
Ouais. Au bord de la plage et tout, vraiment, tu ramènes des enceintes, un groupe électrogène ou même tu te branches sur un truc d'un hôtel et ils acceptent et ça devient la fête. Après c'est souvent dans des contrées un peu dangereuses donc il n'y a pas trop de touristes. Mais après comme on était avec les locaux et qu'on connaît bien les collectifs qui nous ont emmenés là-bas, bah, on les suivait un peu comme des... peut-être comme des cons mais au final
alors,
on s'est bien
marré. Le contraste avec un lieu comme ici à l'Hôtel Dieu par rapport à la plage, ça vous fait quel effet ?
C'est différent mais chaque truc est bien à chaque fois. Et ce qui est cool c'est surtout de se retrouver à jouer avec des gens et... d'installer une ambiance et de faire la fête ensemble.
Rester professionnel à chaque fois, voilà, tout simplement. Faire son boulot, je sais pas.
Non, même en maillot de bain.
Bah ouais, c'est ça.
Ah, il faut...
Et là, Guillaume, c'est votre premier concert, en territoire toulousain.
Ah, clairement. Ouais. On a vu un peu
un
de
enfant de l'Occitan.
Là, ouais, toulousain, c'est le premier. Bah, c'est l'avantage de la musique aussi, c'est de pouvoir un peu... voyager un peu partout. J'étais la première fois, je pense que c'est un peu la même pour nous tous.
Guillaume, il a pas mal voyagé, il était dans un groupe de rock pendant 2-3 ans. Il a bien cheminé l'Europe.
C'est comme ça que j'ai voyagé généralement, parce que ça coûte un peu de pognon. Et en musique, c'est un peu plus facile et c'est la première fois qu'on vient à Toulouse. Et c'est une opportunité aussi de voir du pays. C'est toujours
cool, on est tous potes, à chaque fois qu'on se déplace dans un festival
ou
dans des endroits différents.
Vous gardez des contacts avec les gens.
On se fait très facilement des amis et comme on est déjà... assez foufou, ça part. Enfin, on s'amuse beaucoup.
Et il y a un Japan Tour qui est prévu.
On aimerait bien.
Non, Japan Tour, c'est un peu le rêve parce que c'est le Japon est depuis maintenant pas mal de temps hyper à la pointe en termes de musique électronique. On a des amis à Paris qui organisent un festival qui s'appelle Japan Connection qui est dédié aux musiques électroniques japonaises. Ça va du disco à la musique vraiment presque expérimentale. C'est un peu le rêve parce que c'est face à des gens. Yuma Gouma, il y a quelque chose d'assez inhérent parmi tous ces trois gars, c'est qu'il y a une passion du matos. C'est
l'aspect très technique.
Technique et puis au-delà de ça, c'est le matos, c'est des mecs, ils regardent, moi je suis beaucoup moins là-dedans qu'eux, et ils regardent une vidéo...
Des bricoleurs, quoi.
Ah ouais, c'est à ce niveau-là, et les Japonais sont réputés pour être comme ça, enfin c'est des voilà. Non, mais il y a aussi une sorte de... Enfin, je sais que c'est un peu aussi pas un objectif, mais un rêve, parce que, voilà. Je pense qu'ils se perdraient autant de temps à aller dans des magasins voir des claviers, des trucs comme ça, qu'à jouer. Enfin, perdre du temps, je ne sais pas si c'est... Je vais me faire embrouiller après ça.
Les artistes s'équipent souvent à Tokyo. Il y a plein de bons magasins pour acheter du gros matos. Les Japonais sont très méticuleux, donc tu récupères du matos de super qualité là-bas.
Et Yumaguma, le nom de votre groupe, c'est pas en référence à ça, justement ?
Bah, il y a une sonorité, mais la base, c'est un album des Pink Floyd qui s'appelle donc Yumaguma. Qu'on a un peu réorthographié.
D'accord, à la japonaise.
Ouais, il y a un peu ce côté-là. C'est vrai que le Japon, il y a un côté assez...
Ou la mexicaine, d'ailleurs.
Ouais, oui, voilà, ouais. Mexicaine voilà. Aussi. En tout cas, un côté très international. Votre dernier EP, il va sortir quand ? Il est en cours, là ?
Ouais, il est en cours. On est en studio, on est en mixage. Il devrait sortir en juin, juste avant l'été.
Et on pourra l'écouter sur Bandcamp, Spotify, YouTube.
Sur Radio Campus, ouais, voilà, c'est ça. Normalement, on a toutes les plateformes maintenant.
Bon, ben, on attend d'ici quelques semaines, quelques mois, du coup, le prochain EP.
Voilà, exactement.
Ben, merci beaucoup, les Yumaguma, d'avoir été sur le plateau de Rien à voir, quoique, avec Radio Campus.
Merci beaucoup de nous avoir accueillis.
Et bon concert, on vous écoute donc ce soir dans le cadre du Wild Festival, et on vous retrouve aussi demain et dimanche au port de l'Embouchure, en off.
Merci Yumaguma.
Merci, beaucoup.
Merci Lisa, on va justement écouter un de vos sons, Yumaguma, il s'appelle Level Up. I'm